Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne.
Bonjour à tous, j'ai aujourd'hui le grand plaisir, l'immense plaisir, comme j'ai l'habitude de le dire, d'être en face de Mercedes Hera. Bonjour Mercedes.
Bonjour.
On est au Saint James Club, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs.
On dit comme ça, Saint James.
Saint James Club, dans le 16e arrondissement à Paris, c'est très chic, très cossu. On a été très bien reçus. Mercedes, je suis vraiment ravi de te rencontrer pour la première fois. C'est un moment pour moi parce que j'ai commencé dans la pub et donc voilà. Et ce matin, quand je suis parti de chez Cosa Vostra, j'ai dit que j'allais rencontrer Mercedes Hera et Marie, mais pas que d'ailleurs, mais Marie, une de mes collaboratrices, me dit mais c'est mon héroïne Mercedes Hera. Et je dis ah bon, alors je cherche à creuser évidemment pour préparer tout ça et je dis mais pourquoi. Elle me dit non mais attends, elle est tellement forte en business, tellement forte en créa, et puis c'est elle la patronne, et puis même à la maison. Alors il y a tout un univers, on va y revenir, mais lié autour de ta personne qui est très très intéressant. Et je pense que tu as toujours été très avant-gardiste par rapport à tout ça. Je suis impatient de creuser ça, mais avant tout ça, Mercedes, est-ce que je peux te demander de te présenter?
Bah oui, en fait aujourd'hui je dirige une agence de communication que j'ai fondée au sein du groupe Havas, ce qui veut dire que c'est moins simple que si j'en étais la patronne absolue, hein, faut négocier, faut montrer des chiffres, etc. Mais qui a aussi des avantages, c'est-à-dire que c'était pas tellement pour devenir riche que j'ai créé cette boîte, c'était pour avoir la plus belle des agences. L'agence est vraiment pas mal. Je sais pas si c'est la plus belle, mais en tout cas, elle est jolie. Et ça m'occupe beaucoup de temps. Je fais pas que ça dans la vie. Je m'occupe des sujets qui me tiennent à cœur, comme l'immigration, comme les droits humains, beaucoup de choses. Et je fais pas que ça dans la vie. J'ai des enfants, il y a Marie.
Quelques-uns, je crois.
Voilà, quelques-uns. Et ça aussi, ça m'occupe.
D'accord. On va revenir sur chaque point, et notamment le point de la belle agence, parce que c'est une très belle inspiration. Mais je voudrais remonter très très loin en arrière. Alors, tu es française ?
Je suis française, je suis naturalisée.
D'accord.
J'ai été naturalisée vers 13-14 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, je viens d'un magnifique pays, puisque je viens de la Catalogne, de l'Espagne. Et je suis arrivée lorsque j'avais 6 ans en France. Évidemment, je suis arrivée comme tout immigré, ne sachant pas un mot de cette langue qui était le français. Et puis, avec un besoin d'intégration assez rapide. Et je suis arrivée avec mon papa, ma maman et mon frère. Enfin, mon père était là depuis un an et nous, on a rejoint mon père, en fait. C'est ça, l'histoire.
Le contexte, c'était pour des questions de travail ou de...
C'était pour des questions de travail. C'était un peu difficile parce que c'était un peu un déclassement. Parce que mon père et ma mère étaient dans ce qu'on va appeler bourgeoisie moyenne.
Oui.
Et quand on est arrivé en France, on était plus bas qu'une bourgeoisie moyenne. On avait... pas trop de sous, fallait se débrouiller.
Tu te souviens avoir vécu ça, enfin ce côté
oui.
Déclassement,
ouais. Oui, oui, je me souviens très bien je me souviens que c'était pas un problème pour moi, mais je me souviens que ça existait, c'est-à-dire je pense que avant 6 ans, j'étais dans un univers, en plus l'enfant, il est très valorisé en Espagne. Donc j'étais une espèce de petite poupée super mignonne, habillée joliment, qui était gâtée par toute la famille. Et je suis arrivée en France, il n'y avait plus de famille, en dehors de la toute proche. Et puis il y avait les Français, donc ils n'étaient pas pareils ils étaient moins sympas hein, que les Espagnols, il n'y a rien à dire. Oui, ouais, c'était un pays plus rigide.
Ça l'est toujours ?
Non, ça l'a été. Plus que... Il y a eu... 68, ça a vraiment compté en France. Il y a vraiment eu... Moi, je suis arrivée dans un pays froid et rigide. C'est-à-dire un pays ou qui n'étaient pas frivoles. La mode, peut-être la parisienne existait, je ne sais où, mais pas dans les banlieues où j'étais, où c'était très froid, où la relation avec les enfants était beaucoup moins chaleureuse qu'en Espagne. En Espagne, il y avait un amour de l'enfant qui se transparaissait. En France, moi, j'ai un souvenir très précis. Les parents, c'était l'époque du martinet. Je trouvais ça d'une autre époque, quoi. Moi, je l'ai trouvé un peu bizarre, les Français.
Le martinet, hein, pour moi, c'est ça, le martinet, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte de fouet. Hein,
bah oui, c'était les parents avaient ça comme. Alors, moi, je n'ai pas jamais de problématique quand on est énervé et qu'on fiche une baffe à quelqu'un. Mais quand on achète un instrument pour taper, je trouvais ça bizarre. Hein. Donc, c'était un peu rigide. Les tenues des enfants étaient hyper tristes. Les femmes ne mettaient pas de pantalon. On était quand même. Donc, moi, on me disait que l'Espagne était très retardée, mais enfin, la partie d'Espagne où j'habitais était plus ouverte que la France où je suis rentrée. Donc, un décalage. Donc, il y avait une différence avec ses qualités et ses plus et ses moins.
On sent que c'était un peu dur quand même, du coup. Enfin, pour
c'était un peu rude, mais c'était intéressant. C'est-à-dire que je suis pas sûre que. C'est un monde rose qui aide à les enfants à pousser.
Oui.
Hein, moi, je suis pas sûre que c'était. En tout cas, pour moi, ça ne m'a pas paru inintéressant que d'arriver dans un monde où je devais me battre davantage. Probablement, ça a construit ma personnalité.
Et donc là, tu n'as pas atterri à Paris.
Ah non, non. D'abord, on avait prêté à mon papa une maison qui était en Île-de-France. Le seul souvenir que j'ai, c'est que elle était grande, c'était froid. Voilà, on nous avait logés comme ça. Tout avait l'air un peu vieux. Donc après, j'ai gagné l'amour du vieux. Mais à l'époque, je trouvais ça vieux, quoi. Et avec une petite école de région, où fallait de petits villages... Voilà, avec des avantages, on était un peu à la campagne, donc c'était aussi assez joli. Ma mère, elle disait, la dame d'à côté, elle fait des super potages de légumes, parce qu'en Espagne, on ne faisait pas des potages de légumes. Donc, ce qui est vrai dans l'immigration et ce qui est assez passionnant, c'est que très vite, vous apprenez le relativisme, puisque les gens avec qui vous êtes venus, vos parents en l'occurrence, commentent le pays dans lequel on atterrit. Et si vous êtes né quelque part, votre papa et votre maman ne vous disent pas « comme c'est étonnant cette touffe de légumes ». Moi, j'avais la chance qu'ils disent des choses comme ça en bien et en mal.
D'accord.
Donc, ça apprend une forme de relativisme. Ils s'exclamaient sur la différence de la nourriture, mais aussi de façon très... parfois positive, parfois moins positive. Vous savez bien la guerre, tu sais bien la guerre qui peut exister entre le beurre et l'huile.
Oui.
Voilà, ma maman, elle croyait qu'ils allaient tous tomber malades parce qu'ils mangeaient du beurre. Voilà. Mais elle adorait, elle disait, oh là là, et des tartes, c'est le roi des tartes. Les Français sont les rois des tartes aux pommes. Et je m'en souviens très bien. Donc, il y avait un commentaire... qui aide à prendre conscience que les choses vont pas de soi. C'est-à-dire, c'était un pays gâté, la France. C'était un pays où on avait les soins gratuits. C'était un pays où l'éducation était gratuite. C'était un pays gâté. Et je pense qu'on s'aperçoit mieux que l'on est dans un pays gâté lorsqu'on vient de l'extérieur que lorsqu'on est français de souche. Où on trouve que c'est normal. C'est pas si normal que ça.
C'est pas si normal que ça. C'est intéressant parce qu'en effet, quand on lit tes bios, on lit trois lignes sur le fait que tu es né en Espagne, près de Barcelone, donc. Mais là, on sent que c'est quelque chose d'important. Et j'imagine qu'en plus, donc dans l'évolution, alors par rapport à ta famille, après, il y a eu Franco, il y a eu pas mal de choses qui font qu'en plus, cette chance qu'on avait en France ça a dû s'accentuer, en tout cas, dans ta perception, j'imagine.
Moi, j'avais pas des parents très anti-franquistes. Hein. J'avais des parents qui avaient... mon père avait pris la décision de venir en France parce qu'il avait des enjeux avec des entreprises. Donc, c'était des choses économiques, mais j'entendais pas un discours C'était compliqué, même en Catalogne. En fait, ils sont plus devenus maintenant anti-franquistes que du temps de mon enfance où ça avait été très très dur au moment de la guerre civile. Mais après, Franco avait réussi à ranger le pays. Donc en fait, les gens savaient pas trop quoi dire, quoi, si c'était bien ou pas qu'il ait rangé le pays. Mais il l'avait rangé.
D'accord.
Donc voilà. Et puis c'était un pays qui, enfin, en tout cas, la Catalogne était très ouverte aux États-Unis, à l'Europe, surtout à l'époque aux États-Unis.
D'accord.
Et je pense que c'est cette influence-là qui fait que, alors que les gens pensaient que l'Espagne c'était un pays de retardés, en fait, en gros, hein, quand on me disait tu viens d'Espagne, moi je me disais c'est pas si évident que ça. Enfin, je voyais pas autant un contrat. J'avais pas l'impression de venir d'un pays du tiers monde.
Et ton père venait pour des raisons, parce que lui était autonome, enfin entrepreneur.
Il avait eu un problème d'entreprise en Espagne. Et il avait décidé de venir travailler en France.
D'accord.
Voilà. Okay. Il n'y avait pas d'enjeu énorme politique. Et ça avait été, c'était très dur pour ma maman, rupture de famille, se retrouver dans un lieu où il fait froid. Reconstruire sa vie, regagner. On n'avait rien. Hein. Donc, on n'avait rien, mais on avait nos têtes. On n'avait rien, mais on a. Je me souviens, ils ont fait les meubles de la maison avec les caisses en bois du déménagement.
D'accord.
Mais c'était joli. Ils arrangeaient bien. Donc, il n'y avait pas de. Il y avait du goût et il y avait de l'intelligence. Donc, ça rendait tout de suite les choses. Plus agréable. On n'a jamais quand même senti du manque ou des choses comme ça. J'ai jamais senti ça.
Et alors, si j'accélère un peu, on a l'impression que tu as fait une sorte de parcours parfait. J'exagère un peu, mais peut-être non, pas tant que ça. D'ailleurs, en tout cas, au moins l'éducation, c'est quelque chose sur lequel tu étais assez autonome et tu t'es bougé les fesses toute seule.
Oui,
ou
oui.
C'est ta mère, ton
père?
Non.
Ma maman, elle comprenait rien. Elle trouvait même que sa fille était un peu étrange. Elle travaillait pas. Je suis pas sûre d'ailleurs que c'était la meilleure solution pour ma maman. Mais à l'époque, les femmes en Espagne travaillaient pas. En France non plus, pas tant que ça. Donc, c'était un peu classique qu'elles restent à la maison élever leurs enfants. C'était pas génial pour ma mère parce que c'était pas ce qu'elle préférait au monde. Mais moi, j'ai,
élevé ses enfants. Oui.
Élever ses enfants, oui, c'est-à-dire rester à la maison, faire le ménage, rien faire d'autre.
Ça se comprend.
Ma mère était plus brillante que ça. Oui. Et puis, c'était pas une ménagère. Donc, elle m'a appris beaucoup de choses finalement en n'étant pas une ménagère. Moi, je suis beaucoup plus ménagère qu'elle. C'est-à-dire, j'aime l'ordre, etc. Ma mère aussi, mais elle aime le désordre aussi.
Pour le petit aparté, juste avant cet échange qu'on a là, tu appelais chez toi, en effet, pour régler deux, trois petites choses personnelles.
Oui,
j'entendais ça.
Oui, je vérifie qu'ils sont tous au courant qu'on livre un matelas et qu'il faudrait quand même qu'il y en ait qui s'occupent de le recevoir.
Sinon, tu lâches rien.
Non, mais on peut pas. Les femmes, d'ailleurs, c'est exceptionnel. Les femmes, c'est pas qu'elles lâchent rien, c'est que les hommes ont tout lâché. C'est pas le même concept. Hein. Moi, je crois pas. Bon. Ah oui, mais elles veulent pas laisser la place. Moi, alors là, je pense qu'on laisserait volontiers nos places à des moments donnés, mais il faut quand même que les choses se fassent. Et les femmes, elles sont hyper sensibles à. Il faut faire ça pour les enfants. Elles ont un degré d'exigence par rapport à ce qu'il faut faire pour les enfants qu'on leur a mis dans la tête et qui est fort. En tout cas, pour revenir à mon histoire, oui, pour moi, l'éducation... J'ai tout de suite, en fait, quand je suis arrivée en France, je ne parlais pas français. Je ne parlais pas espagnol, en fait. La vérité, c'est que je parlais catalan.
Catalan, oui.
Et donc, quand les gens me disaient « Mais tu parles quoi, toi ?» l'air méprisant, je leur disais « Je parle espagnol. » Et si par malheur, il y avait quelqu'un qui parlait un peu espagnol,
merde.
Je ne comprenais pas non plus. Et donc, je disais à maman, écoute, il y a un problème, c'est que je ne parle rien. Elle me disait, mais si, tu parles catalan. Et je disais, mais je ne sais pas, ils me disent que ce n'est pas l'espagnol. Moi, je ne savais pas tout ça. Donc, très, très vite, quand même, quand je suis arrivée, mon obsession, c'était le français.
Tu mettras
le français. Le français. Et comme les enfants se moquaient, je me suis tue longtemps. Je me suis tue, allez, on va dire que pendant 6 mois à l'école, ils ne m'entendaient pas. Ils étaient inquiets d'ailleurs. Hein. Ils disaient ma maman, elle parle pas quand même. Et ma maman disait si, si, elle parle à la maison, vous inquiétez pas, elle parle. Et, mais moi, je parlais pas à l'extérieur et j'écoutais France Inter. Et au bout de 6 mois, je parlais très bien. Je parlais mieux que les Françaises.
Sans
parce
accent,
que je parle, on n'a pas d'accent quand on est petit.
Oui, ouais, ouais, c'est
on,
vrai.
Ça va très vite. On a, ça va pas très vite. Tout le monde apprend les langues, mais on n'a pas d'accent. Mais moi, j'avais un truc miraculeux. J'avais l'orthographe naturelle en français.
D'accord.
Donc, je ne sais pas d'où venait la naturalité de mon orthographe, mais et j'avais une passion pour la langue. J'adorais ça. J'aimais pas quand ils faisaient des fautes. Mes grandes difficultés à moi, ça a été l'argot, le San Antonio.
Oui.
Oh là là, je trouvais ça dur, hein, parce que c'était, j'avais pas cet apprentissage-là. J'avais un apprentissage un peu littéraire de la langue.
Ça a d'ailleurs été la suite, du coup.
Bah oui, parce que comme je pensais que la langue c'était la chose la plus importante, j'ai cru pendant longtemps que le métier le plus important c'était prof de français. Je voyais pas ce qu'on pouvait faire d'autre. Ça ne m'a pas passé effleuré.
C'est génial.
Je me suis dit, bah oui, t'apprends le français, tu deviens prof de français, donc tu es française. Pour moi, il y avait une logique de... Et la volonté d'intégration chez les enfants, elle est magique.
Incroyable, oui.
Elle est incroyable. Tous les enfants, hein, ils veulent être conformistes, ces enfants. Donc, ils veulent être... Et à l'époque, moi, j'avais la chance de ne pas être dans des ghettos. C'est-à-dire, je n'étais pas entre espagnols ou je ne sais pas trop quoi. J'étais avec des Français. Donc, je voulais être française. Je voulais avoir un prénom français. Je voulais m'habiller comme les Français. Je disais à ma maman, tu m'habilles... Mais tu vois bien que c'est plus joli ce que je te mets. Je dis non, 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 habille-moi moche, comme les Françaises.
Pas simple, hein, Mercedes, comme prénom d'ailleurs.
Ah non, non, c'était hyper dur. J'avais honte à chaque fois, c'était terrible pour moi. Alors, je voulais changer de prénom. Je voulais m'appeler Martine. C'est top, Martine. Ça me semblait le comble du talent, Martine, de s'appeler Martine. Parce qu'il y avait les Martines oui, à la plage, oui, Martine va en vacances et tout. Donc, moi, je voulais être Martine. Et ma mère me disait désespérée, elle me disait, non, mais attends, tu t'appelles Mercedes, donc tu vas rester Mercedes, quoi. On peut pas renier ça, quoi. Et donc, je pense qu'elle est... Ma mère, elle a quelque chose de très intelligent, très brillant. Elle avait déjà senti que quand on a un problème, quand on le règle, ça devient une force.
Mmh.
Et donc, très longtemps après, j'ai vu une petite fille qu'on avait prénommée Mercedes, qui était française, cette petite fille. On l'avait prénommée Mercedes. Je m'en suis rendu compte parce que j'étais avec sa maman, puis elle appelait Mercedes, donc je croyais qu'elle m'appelait. Et en fait, elle appelait sa petite fille et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui vous a pris? Et en fait, elle m'explique que la grand-mère s'appelait Mercedes, que c'était un si joli prénom qu'elle l'a appelé Mercedes. Et je lui dis alors, elle me dit, ben, je vais te dire, quand elle aura assumé son prénom, je pense qu'on aura la fille la plus forte de la Terre. Parce que c'est dur d'assumer des différences, donc ça forge
mais
quand même.
Il y a un côté quand même super cool de Mercedes, c'est que quand moi je dis ce week-end à un de mes potes qui a bossé chez toi, mais même d'autres, hein, je vois Mercedes lundi, on sait tout de suite de qui on parle, quoi. Je veux dire, j'aurais dit Martine ou quelqu'un.
Non,
donc il y a un côté, il y a un côté unique.
Je pense que ma maman a eu raison. Ma maman a eu raison pour deux raisons fondamentales. Premièrement, parce que avoir du mal, c'est pas toujours un mal.
Oui.
Et donc apprendre à assumer sa différence. C'est bien. C'est pas bien d'apprendre à les enfants d'être tous comme les autres. Il faut apprendre la rupture du conformisme. Et deuxièmement, et ce qui est devenu, ce qui était dur à une époque est devenu une force. C'est-à-dire que, à partir d'un certain moment, l'originalité, la différence devient gagnante.
Mmh.
Et donc, mon nom est presque une marque.
C'est vrai.
Et donc, c'est une marque de voiture. Et moi, c'était... Oh, j'étais terrorisée quand ils faisaient broum broum. Mais en fait, et je racontais à tout le monde, je disais, mais vous savez que c'est la voiture qui a pris le nom d'une fille et pas le contraire.
C'est vrai,
enfin,
c'est vrai.
Mais bien sûr, l'histoire, c'est ouais, que ouais. le monsieur Benz oui. avait une fille, une belle fille qui s'appelait, qui venait d'Espagne, qui s'appelait Mercedes. D'où le nom. Mais ça, j'avais vite appris l'histoire, hein, parce que cette histoire d'être du nom, d'avoir le nom d'une voiture, ça ne m'allait pas du tout.
Que tu as dû raconter des milliers de fois.
Moi, j'ai raconté des milliers de fois. Et après, eh bien, c'est devenu un peu une marque parce que c'est différent. Mmh. Et donc, quand les gens me connaissent, ils retiennent mon prénom.
Je voudrais absolument qu'on revienne et qu'on parle de marque aujourd'hui, parce que c'est quelque chose que tu connais bien, pour rebondir là-dessus. Mais avant ça, donc tu es vraiment devenu prof de français. Donc.
Je suis vraiment devenu prof de français.
Tu as enseigné ?
Un an. Et je me suis d'ailleurs rendu compte que quand je passais les CAPES et tout ça, il y avait beaucoup d'étrangères.
D'accord.
Et qui semblaient, moi je croyais que j'avais un parcours original. Je pense que je me souviens d'une fille qui s'appelait Michela Pollini. Et donc, l'origine italienne était quand même latente. Eh bien, je pense qu'elle avait fait comme moi.
Oui.
Elle était tombée amoureuse du français. Comment ? C'est tellement évident que quand les choses ne sont pas naturelles, vous naissez pas avec et que vous êtes tout petit quand même. J'étais jeune à 6 ans. Quand vous apprenez, c'est miraculeux, quoi. Mmh. Moi, j'ai appris à ce moment-là une langue que je trouvais magique parce qu'elle était différente, parce qu'elle était autre. Voilà. Et donc, je pense
parce
que
qu'elle est belle aussi, quand même.
Elle est belle, mais l'espagnol aussi.
C'est vrai.
Le catalan aussi. Beaucoup de langues sont belles.
C'est vrai.
Mais moi, je trouvais très belle cette langue qui était le français. Et je continue à la trouver très belle.
Et alors, ce que je voudrais comprendre...
Et à la défendre.
Oui, c'est très important. Versus l'anglais qu'on utilise un peu trop. Ouais.
Versus, c'est très choquant quand les entreprises françaises n'assument plus le fait qu'on a le droit de parler français, et même si l'anglais est une langue internationale, on a à protéger aussi sa propre langue.
Mmh.
C'est fondamental.
C'est fondamental. Alors c'est vrai que ça pose toujours un peu cette question. Moi, parfois, chez Cosa Vostra, que je dirige, je propose à mes employés qu'on passe, puisqu'on a quelques employés. Alors déjà, on a un bureau à Londres, et puis on a quelques employés anglophones, même à Paris. Et je leur propose qu'on passe à un ou deux jours par semaine en anglais. Parce qu'en fait, dès qu'on travaille avec des clients internationaux, il y a
cette envie.
Mais je te rejoins là-dessus. Alors,
faut un équilibre. C'est-à-dire, moi, par exemple, je pense fondamental de bien parler anglais. Parce que sinon, ils n'écoutent même pas. Donc, il faut bien passer. Mais comment on fait les deux en même temps? C'est-à-dire, on apprend l'anglais pour pouvoir se défendre, se protéger, échanger avec des gens qui ne font pas grand effort pour parler français. Et de l'autre côté, on protège sa langue. Il y a plein de façons de la protéger.
Et après, il y a aussi le côté universel qui est intéressant du coup sur l'anglais. On a perdu avec le français, mais je veux dire, c'est que pour dialoguer avec un Italien quand on ne parle pas italien, souvent, il y a ce côté intéressant.
Ouais, mais je ne sais pas si c'est intéressant. C'est
triste.
C'est bien. Il y a ce côté universel, mais le français peut être universel. Si on regarde les évolutions des chiffres, si on regarde l'Afrique, et si on préserve, parce que ça se fait pas comme ça.
Bien sûr.
Les Américains, ils ont fait un effort pour que partout on passe à l'anglais. Ils se battent pour ça. Parce qu'ils détestent quand on passe pas à l'anglais. En tout cas, il faut savoir que encore quand on parle avec un Italien et qu'on est en vacances, c'est pas très grave. Mais que dans le business, ça nous fait perdre des points.
D'accord. Il faut que tu m'expliques comment tu passes de cette jeune Mercedes qui vient d'Espagne à cette jeune Mercedes qui apprend le français à des Français, cette jeune Mercedes qui rentre chez Saatchi et qui crée BETC. Qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, il s'est passé... j'ai eu des études formidables. J'ai fait des hippocagnes sans fin, des cagnes, des recagnes. Donc, j'ai eu
Mais il y a quelqu'un qui t'a poussé à un moment,
des profs, des gens? Non. J'avais une foi en l'enseignement. Et puis, j'avais compris. Par exemple, j'ai pris allemand, latin, grec. J'avais compris qu'ils allaient me mettre dans les meilleures écoles. Ma mère me disait, non, mais si tu trouves que c'est raisonnable? Et moi, je lui disais, bah, écoute, fais-moi confiance. Et en gros, non, j'ai toujours su davantage Chez moi, on mettait pas de pression, c'était pas la peine, quoi. Et surtout pas ma mère, qui pensait qu'il valait mieux apprendre l'anglais que l'allemand, franchement. Qui était de bon sens. Ma mère était de bon sens.
Et tes enfants, coup, aujourd'hui, je t'en
prie. Ce téléphone qui s'y met. Attendez, je le prends parce que je sais pas ce qui se passe. Allô? Oui, non, juste, t'es censé recevoir un matelas, il est insomnié. Je te laisse parce que je suis en interview. D'accord? Oui, à la maison à Garches. Voilà, je t'embrasse.
Voilà. Si tu me le permettras, je le laisserai parce que j'essaie idéalement de faire tout le montage, puis ça illustre bien ce qu'on se disait tout à l'heure.
Bah oui, on est occupé. Voilà, non. Donc, je pense que j'ai fait des études très structurantes, très dures d'ailleurs, parce que franchement, j'ai eu un bac mention très bien avec aisance, et puis après, je suis arrivée dans des hippocagnes, les meilleurs de France, à Fénelon. C'est les meilleurs pour aller. À Sèvres, donc à Normale Sup femme, puisque à l'époque c'était séparé.
Donc Fénelon, tu étais en pension ?
Non, j'étais pas en pension. J'étais en pension, mais pas à Fénelon. J'étais au foyer des lycéennes, qui n'était pas exactement une pension, mais un espèce de lieu où toutes les filles qui préparaient en France, à Paris, et qui venaient de loin, de la province, était là. C'était une ambiance très dure parce que les hippocagnes et les cagnes littéraires étaient extrêmement dures et surtout étaient extrêmement négatives. Moi, je me souviens, je rentrais, je pleurais parce qu'ils m'avaient dit que je ne serais pas Proust. En même temps, je ne voulais pas être Proust, mais ça me faisait pleurer quand même parce qu'on n'était jamais valorisés. Les notes, elles commençaient en latin, on avait moins 30, moins 20, on progressait, mais je me souviens, j'ai du mal à m'habituer. Moi, j'étais habituée à être la meilleure des élèves.
Mais là, tu te mélanges en plus à des gens qui sont... Parce que Fénelon, l'Alsacienne, toutes ces écoles, ces lycées, c'est quand même la haute société.
Fénelon et l'Alsacienne, ça n'a rien à voir. Fénelon, c'est l'école publique par excellence. Donc, c'est les fils de profs qui parlent latin couramment parce qu'on les a préparés pour les grandes écoles.
Ça a changé, ça, aujourd'hui, non ?
Bah, Fénelon, ça reste toujours Fénelon, c'est pas mélangé avec l'Alsacienne. L'Alsacienne, c'est une école payante.
Je dis pas que ça n'a rien à voir, je dis juste que aujourd'hui, pour rentrer à Fénelon, c'est compliqué.
Oh non, mais c'était compliqué aussi à l'époque, c'était les meilleurs. C'était les meilleurs de l'école publique. Non, ce qui a changé, c'est que l'école publique est moins bonne. Et qu'elle est plus complexe. Mais ce qui n'a pas changé, c'est que. Il fallait quand même un très bon niveau. Ils prenaient que les mentions très bien, etc., pour rentrer à Fénelon. Et donc, ils prenaient la crème des littéraires ou la crème des matheux. Enfin, en l'occurrence, Fénelon, c'était une prépa très littéraire. Et on se retrouvait plutôt qu'avec des gens riches. C'était pas ça.
D'accord.
On se retrouvait plutôt avec les fils d'enseignants. Des gens qui avaient été... moi, j'étais un peu un oiseau qui s'était élevé tout seul, quoi. J'ai expliqué à ma maman ce qu'il fallait faire. Je voulais avoir une vision globale des humanités. Donc, je faisais piano, truc, etc. Mais j'étais moins préparée au concours que les filles de prof, quoi. Hein. C'est normal. Hein. Donc, voilà. Donc, non, c'était un c'était passionnant parce que j'ai rencontré, c'était pas mixte, j'ai rencontré des filles extrêmement formidables qui sont restées dans cet univers-là. Hein.
D'accord.
Moi, j'ai quitté cet univers-là après, et j'ai appris énormément de choses. Ma culture la plus fondamentale, c'est ces cagnes à répétition, cette exigence d'un texte bien écrit, cette compréhension de l'histoire, cette compréhension des lettres, etc., qui m'a amené à être prof. Et quand j'ai été prof, ce qui a basculé dans ma tête, c'est que, en fait, j'avais voulu être prof de lettres, quoi, mais je voulais pas être prof de lettres. Je voulais avoir le diplôme du professorat de lettres. Et après, quand j'ai enseigné, ça correspondait pas à mon rythme. Ça correspondait pas à... D'abord, l'école ne correspondait pas exactement à ce que je pensais que devait être l'école.
Oui.
Déjà. C'est-à-dire que il y a longtemps hein, maintenant, je me disais mais on se parle même pas des élèves, on fait son cours. Donc moi j'avais pas de problème, j'ai une oralité, une aisance en oralité, donc j'avais aucun problème ouais. Pour faire cours. Les élèves ils m'aimaient bien. En plus j'avais l'air d'une gamine comme eux, mais j'avais une autorité assez naturelle. J'avais pas de problème. Mais en revanche je me disais mais est-ce qu'ils comprennent quelque chose à ce que je raconte? Et cette question qui a l'air stupide, mais personne ne se l'a posée quand même.
Et c'était quoi comme type d'élève? Quelle classe?
Bon, bah, j'avais une seconde à Bergson, première, voilà.
Et il t'a fallu un an pour te dire ok?
Non, il ne m'a pas fallu un an. C'était quand même très bien. Donc, je ne me posais pas non plus. Il fallait que je. D'abord, je n'avais pas d'argent, moi. Donc, toutes mes études, c'est les IPES. Donc, j'ai signé avec l'État tout de suite. Je n'avais pas tant d'argent que ça dans ma famille pour faire ces études. Et donc, moi, je me disais juste. Je ressentais que ce n'était pas mon rêve idéal, quoi. Que je n'allais pas pouvoir. D'abord parce que j'étais extrêmement travailleuse et qu'il me fallait une passion. Et je me disais, mais j'ai l'impression de ne pas avoir quitté l'école. J'ai l'impression qu'il n'y a rien au mérite. Et alors là, ce n'est pas moi. Moi, il me faut des trucs au mérite, sinon je meurs. Donc, je me disais, mais on est tous, qu'on fasse bien, qu'on fasse mal. En gros, on reste tous jusqu'à la fin de notre vie au même endroit. Il n'y a pas de collaboration sur, je ne sais pas, comment est-ce qu'on fait un cours, comment on devient plus intéressant pour les gamins, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc, c'était un peu comme si ma vie s'arrêtait, elle allait être comme ça jusqu'à la fin des temps. Et du coup, ben, je me suis dit, je suis passée comme ça, par hasard, j'ai passé un concours, on va voir. Un concours qui pourrait m'amener dans un univers très différent. J'ai pensé à l'entreprise, mais je me méfiais parce que l'image de la culture littéraire empêche parfois de rentrer dans les entreprises. Et donc, j'ai passé HEC pendant l'été, quoi. Et je l'ai eu, quoi. Et comme ils ont trouvé ça très bizarre, une fille de lettres avec son latin et tout, qu'il avait. J'étais bien classée en plus. Ils m'ont pris, ils m'ont donné une bourse. Donc, j'ai arrêté mon contrat avec l'État. J'ai fait une suspension.
D'accord.
Mais je devais le reprendre. Et j'ai fait 2 années d'HEC qui m'ont aidée à comprendre qu'éventuellement, d'autres portes étaient possibles.
À Jouy et en Josas, déjà?
À Jouy.
Et donc, du coup, tu rentres là-dedans un peu par hasard, en fait.
Oh bah enfin, je rentre.
Tu t'étais pas dit, j'ai une vocation dans le business.
Non, je me suis quand même dit que c'était une grande école, ça j'avais compris.
Oui.
Donc je me suis dit que ça ouvrait des portes, ça j'avais compris. Ça a été le cas. Ça a ouvert beaucoup de portes. Et comme c'était un peu la référence, c'est une référence, je me suis dit peut-être que ça va me permettre de bouger comme je l'entends, etc. Après, rien n'était très clair. Je ne savais pas si je n'allais pas retourner à l'enseignement. Hein. Après, il n'était pas question que je fasse des choses où je m'ennuie. Quoi, hein.
Tu ressors à peu donc quoi, quel âge? 25 ans à peu près? 24 ans?
Oui, à peu près. Je sors de là avec... non, en fait, j'ai eu de la chance. J'ai fait un stage. J'ai fait un stage dans la com. Et là, tout s'est éclairé. C'est-à-dire que c'est très dur de trouver son métier, en fait.
Mais ce que je voulais dire, quand même, c'est que t'as quand même une sorte de double diplôme, un truc qui est juste fantastique pour aussi un entrepreneur, en tout cas dans certains univers.
Si tu aller... En fait, ils prenaient surtout les HEC, ils se contrefichaient de mon premier diplôme.
C'est vrai.
Presque, hein, presque. Mais la vérité...
Ce qui est une erreur. Je veux dire, c'est important d'avoir
en
des
fait,
gens...
Ce que je suis, c'est mon premier diplôme.
Oui.
C'est-à-dire que ce... Ce qui m'a été le plus utile dans la vie, c'est mon premier diplôme. Ce que m'a apporté HEC, c'est, et ça je leur en sais gré, c'est que toute l'école française est quand même une grande partie de l'école française est construite sur la non-confiance. C'est-à-dire, en gros, vous allez rater, vous n'allez pas avoir le concours, vous n'allez pas y arriver, vous n'êtes pas Proust, ah oui, bonne nouvelle, etc. Donc, du négatif. Donc moi, j'ai eu ma dose de négatif, ça a été formidable. Donc HEC, quand vous avez une dose bien forte de négatif parallèle, ça construit des ailes, ça vous donne des ailes parce que c'est à l'envers. Mmh. Alors, c'est vous êtes dans l'élite, vous allez y arriver, bien sûr on compte sur vous, bien sûr aucun problème, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il y a nécessité de créer un équilibre en France sur ce qu'on dit aux enfants. Il faut quand même leur dire qu'ils vont y arriver, quoi. C'est pas possible.
Oui, et compris lors du scolaire d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a une.
Mais c'est pas en dehors du scolaire, c'est que le scolaire doit leur dire qu'ils vont y arriver. Je sais pas ce que ça veut dire cette négativité.
Je suis d'accord. Quand je dis en dehors du scolaire, c'est qu'il y a, il y a un côté. Alors quand je vois peut-être plus les Américains que les Anglo-Saxons, mais qui est peut-être alors là à l'extrême opposé, peut-être un peu trop, mais le côté. On te pousse, on est derrière toi, on même dans le sport, même dans pas mal de choses qui est
bien
moins,
sûr, de toute façon, il faut trouver les zones de potentiel. Après, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre nos amis les Américains. Moi, je pense qu'il faut réfléchir à ce que c'est la culture qu'on souhaite donner à tous. Moi, je suis très pour l'école publique, pour donner une culture à tous. Je n'ai pas envie que les Français soient idiots. Je trouve qu'il faut donner une culture à tous. Et après, il faut faire avec les différentes qualités des uns et des autres. Un enfant, c'est toujours un potentiel.
Oui.
Donc, si moi, mes enfants, mes propres enfants, se sont ennuyés à mourir à l'école.
Tu en as 5, hein, je
me rappelle. Et j'en ai beaucoup qui se sont ennuyés. Et donc, ça ne me paraît pas possible, quoi. Ça me paraît... Et il y a eu des discours trop négatifs, donc... Nous, on compensait. C'est-à-dire, quand vous êtes dans des familles comme la nôtre, quand on me dit, votre enfant, il y a des jours où je leur disais, vous savez quoi, je vais l'abandonner quand je vais sortir d'ici, ne vous inquiétez pas. Enfin, ils sont trop négatifs.
Moi, je suis très républicain, alors je dois défendre au passage un peu. Alors, mes enfants sont très jeunes, c'est vrai, mais j'en ai une qui est en CP, l'autre qui est en maternelle. Mais... Alors, sur des méthodes, ils approchent, ils font des tests Montessori, un certain nombre de choses que je trouve assez remarquables quand même, et dans l'école publique, hein, les deux, et je vois une évolution très positive, mais je pense que c'est peut-être, j'ai peut-être beaucoup de chance, je suis peut-être dans une école un peu à part, mais je suis très impressionné, je dois dire, par le travail assez remarquable.
Moi, j'étais impressionné à l'envers, quoi. J'ai trouvé qu'on n'était pas sympa avec mes gamins. Mais pas sympa. Et de toute façon, les chiffres de la France sont catastrophiques.
Oui.
C'est-à-dire que vous pouvez pas... je pense pas qu'on puisse continuer sur le même registre, c'est-à-dire ne pas traiter les enfants avec du potentiel, ne pas comprendre d'où ils viennent, ne pas comprendre comment il faut complémenter quand ils viennent d'un endroit ou d'un autre, enfin... C'est pas la même chose, quoi.
Oui,
on est un des pays aujourd'hui le moins positif en termes d'égalité des chances. Pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible, ça. Et après, évidemment que je ne relie ça, pas ça aux professeurs, ou je relie ça à l'organisation, au système.
Si je reviens...
Après Montessori, j'ai jamais vu ça dans l'école de mes enfants. Hein.
Oui. Mais non, j'ose espérer que ce soit un test qui soit concluant.
Pourquoi croyez-vous que la plupart des enfants aujourd'hui, dès qu'on est dans un coin, il y a des ghettos, et même les gens qui étaient des récup publicains mettent leurs enfants en privé aujourd'hui. C'est pas bien.
Non, je suis d'accord.
Cette école publique qui était incroyablement valorisée en France, elle l'est de moins en moins.
Il faut qu'on la préserve.
Il faut se battre, bien sûr. Il faut se battre pour elle.
Et si je reviens du coup sur cette approche, ce changement radical, c'est là où toi tu as commencé en stage chez Saatchi ?
En fait, moi j'ai fait un stage, j'ai fait plusieurs stages au cours d'HEC, et dont un stage, j'ai fait un stage en marketing pour Air France à Mexico, j'ai fait un stage de contrôle de gestion, et puis j'ai fait un stage de communication chez Saatchi, et j'ai senti immédiatement que ça avait rapport avec, tout ça avait un rapport avec tout ce que j'aimais.
Saatchi et Saatchi, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est toujours, mais c'est une immense marque.
Moi, c'était un peu plus compliqué que ça, parce que c'était une agence française qui avait été rachetée par les frères Saatchi. Elle s'appelait Dupuis Compton. C'était une des vieilles agences françaises avec une âme magnifique. Et puis, elle avait d'abord été dans un circuit américain, Compton, qui avait été lui-même racheté par Saatchi.
D'accord.
Et donc, j'ai vu à la fois le côté agence française, indépendance, et le côté Saatchi donne les ordres, moins intéressant.
D'accord.
Moins intéressant. Mais en tout cas, je suis arrivée dans ce métier et je me suis dit, oh là là, ils ont inventé ce métier pour moi. Et ça, je trouve que c'est la chance d'une vie, ça, parce que quand vous tombez, quand vous êtes enfant, vous savez pas très bien. Moi, j'aimais plein de choses, je savais pas très bien. Et ça, ça réconciliait exactement tout ce que j'aimais, quoi. C'était la capacité d'analyse constante, de bâtir des stratégies, de comprendre les gens. La littérature, elle était fondamentale pour m'apprendre ça. La compréhension des gens.
T'as pris une claque, en fait. Non, c'est ça, une sorte de coup de foudre avec ton métier.
J'ai pris surtout un coup de foudre. Je me disais, c'est dingue.
Ça a été presque immédiat, enfin.
C'est... Ah, bah oui. Très, très vite. Ça, j'étais à l'aise comme un. J'étais comme. Alors que j'imaginais même pas tout ce qu'on dit sur la publicité est tellement stupide que moi, j'avais ça dans la tête. C'est bête et trucs. Du coup, quand je suis arrivée, d'ailleurs, en stage, j'ai dit, je veux faire de la sémio. Puis finalement, j'ai fait commercial et en fait, j'ai fait de la stratégie. Je me suis dit que le métier était passionnant et en plus, il était relié au réel. En fait, c'est un grand métier de persuasion. D'abord, c'est un grand métier qui existe depuis toujours. Même s'il n'y avait pas d'agence de publicité, il y a, en gros, les hommes ne sont que des êtres de communication. Quand un leader politique gagne, c'est parce qu'il communique bien. C'est parce que ce qu'il dit est compris, ou à un moment donné, il y a une perception.
Vu la trace qu'il a laissée, j'imagine que Jules César avait des communicants autour de lui. Quoi.
Bah, en tout cas, proprement parler, ou même les êtres humains sont des communicants. Quand vous allez mal, les êtres humains sont des communicants qui valorisent ce qu'ils font.
Oui.
Quand vous allez mal, ça se lit très fortement parce que vous n'arrivez plus à valoriser ce que vous faites. Mmh. Et donc, vous êtes en retrait par rapport à ça. Et vous savez plus faire de la publicité pour ce que vous faites. Mais quand vous allez bien, vous faites de la publicité. Tout le monde.
Quand vous allez bien, vous faites de la publicité. C'est une bonne remarque. Sinon, ça
veut dire que vous êtes mal dans votre métier. Ou vous dites que vous faites ça, mais en fait, vous n'aimez pas. Ça veut dire que vos enfants vous inquiètent. Voilà.
Et alors, j'ai tellement de questions par rapport à ça, et justement la publicité, et quand vous allez bien, on pourrait dire quelque part une forme de manipulation du coup autour de tout ça. Où est la barrière, où est le...
En fait, la barrière, c'est que les gens ne se laissent pas manipuler, c'est plus compliqué que ça.
Ce que je veux dire, c'est que quand vous allez bien, vous faites de la publicité. Est-ce que quand on va bien, on se manipule et on manipule les autres? Est-ce que
non,
c'est...
mais l'être humain, il est perception. Ça n'existe pas, le réel. Les gens vous racontent l'histoire de leur enfance, ils l'ont totalement inventée, puisqu'ils ont un souvenir pur.
Oublier la dernière demi-heure.
Le souvenir, est une relecture.
Oui, oui.
Est une relecture. Parfois, je me dis, est-ce que même moi, comme je travaille beaucoup sur la perception, je me dis, mais je raconte ça, mais est-ce que ça a vraiment eu lieu comme ça? En fait, non, tout est revisité par l'être humain.
Tout est subjectif.
Et tout est lié à son appréhension. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'il y a des dames qui sont enceintes et qui ne voient pas qu'elles sont enceintes.
C'est ce qu'on réalise sur pas mal de choses, ce qui est très bien dit dans ce livre Sapiens de Yuval Noah Harari, qui explique bien qu'une marque, en soi, on va en parler, mais une marque, ça n'existe pas. Qu'est-ce que BETC, qu'est-ce que Cosa Vostra, qu'est-ce que Coca-Cola, finalement, si ce n'est une sorte de croyance collective, bon.
Non, alors ça, c'est plus compliqué que ça. Ça finit par exister parce que BETC, ça existe vraiment. Hein. Il y a une culture. Vous rentrez chez BETC, vous n'êtes pas bien, c'est pas votre culture. Il y a des gens qui s'y sentent bien, des gens qui s'y sentent pas bien.
Oui.
Donc c'est pourquoi? Parce que en fait, une marque, ça devient une façon de regarder, une culture.
L'affectio societatis, c'est ça?
Il y a une façon de faire chez BETC qui n'est pas la même que celle de Publicis ou celle d'une autre très belle agence au demeurant. Hein,
même de chez Havas, peut-être, oui.
Complètement.
Oui.
Faisons très différemment.
Et alors, pour avancer là-dessus, tu as eu un parcours assez rapide chez Saatchi. Hein. J'ai lu ça.
Oui, j'étais prête. J'étais prête. Quand je suis arrivée, j'étais prête. J'étais prête à travailler. D'abord, j'avais un truc un peu spécial. C'est que j'avais le sentiment de la responsabilité. Je n'avais pas du tout besoin de posséder quelque chose, moi, pour me sentir responsable. Je suis rentrée dans mon job et je croyais que j'étais responsable de tout. Donc, c'est assez grave comme état. Mais en fait, vous n'avez pas beaucoup de concurrence hein, sur ce cas-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui se sent responsable de tout. Responsable de tout, ça veut dire dès qu'il y avait un problème, je croyais que c'était de ma faute. Donc, je voulais le régler. Donc, à force de régler tous les problèmes, je suis devenue directrice générale, quoi. C'était assez...
C'est naturel, voilà. En fait, finalement.
J'étais assez simple et naturelle. J'avais pas du tout de plan de carrière.
Je crois que je comprends complètement ça, l'idée de se dire, en gros, quand tu bosses dans une boîte et que tu passes à côté d'un pot qui est tombé par terre ou d'un truc qui est rentré.
Il y a des gens qui réfléchissent qui l'a fait tomber, puis il y a des gens qui ramassent.
Ouais, évidemment.
Et puis qui se disent, mais pourquoi il est tombé? Est-ce qu'on pourrait aider à ce qu'il ne tombe pas? Et alors, vous êtes embarqué. Et ça, c'était... moi, j'avais, une passion pour le métier. J'étais contente qu'on me paye pour avoir cette passion. Voilà, j'étais contente, voilà. Et puis, j'étais travailleuse, donc j'avais pas peur. Et puis, je me sentais responsable. Et c'est des choses, le mélange entre la passion, la responsabilité. Si mon client avait des pépins, je croyais que j'y étais pour quelque chose que je pouvais aider. Donc, je contribuais. J'ai essayé de contribuer au maximum.
Ce qui implique plein de questions aussi, le fait de savoir aussi s'arrêter chez un client et de ne pas régler tous ses problèmes parce que certains ne sont pas les tiens.
C'est un peu difficile. Pour ma part, je suis assez nulle. De toute façon, je n'aime pas les limites dans la vie. Je n'aime aucune limite. Donc, et puis, chez Saatchi, j'avais été bien élevée par un patron qui avait des qualités et des défauts, comme tous les patrons, mais... J'aimais bien, il avait un côté protestant, il m'expliquait que plus mon bureau était petit, plus ça avait été un signe d'intelligence, donc bon, d'accord. Plus que chez un client, on n'était pas responsable de la communication, on était responsable du fait qu'il aille bien. Donc en effet, je me mêlais de tout, quoi. Je me mêlais de beaucoup de choses.
Et... Si je voudrais aborder un point un peu pour ceux qui connaissent pas l'univers des agences et dans beaucoup de métiers hein, d'ailleurs si je vais dans les médias on va avoir les journalistes, les commerciaux, dans les agences les créatifs, les commerciaux, on va avoir je peux chercher hein, à chaque fois, même à la limite dans les startups il y a les ingénieurs et les business, et il y a toujours un peu le côté le côté très
oui,
vertueux.
Mais alors nous,
toi, tu avais une position, pardon, je finis parce que c'est important. Quand je vois ton parcours, déjà, quand même, un côté un peu littéraire, je veux dire, on peut pas te la faire à l'envers parce que tu restes quand même quand tu arrives, tu as HEC, mais tu as aussi la lettre et les lettres, pardon, et du coup, il y a quand même cette force ou rien à voir. Est-ce que c'est une...
Mais non, mais moi, je pense surtout que c'est pas comme ça que le concret. C'est-à-dire que...
Oui, mais c'est une réalité.
Mais pas du tout. Il faut pas tout mélanger. Dans une agence de pub, c'est la raison du succès de BETC. Hein. Une agence de pub, il faut proposer au client quelque chose qui soit un levier de persuasion pour le consommateur. Cette chose que l'on propose, il y a deux parties. Il faut identifier ce qu'il faut dire. Et que voulez-vous ? Le fond, c'est plus important que la forme. Le fond, c'est clé. Et ce fond... Il faut qu'il soit fait par quelqu'un, ce sont les stratèges. On les a appelés commerciaux parce que le stratège, il est responsable de porter son projet à la vente chez le client. C'est lui qui va être responsable de la relation avec le client. Mais en gros, moi non plus, quand on m'a dit tu fais un stage en commercial, je vais dire, mais moi, je suis pas du tout commercial. Mais je ne suis toujours pas commercial. Je fais des choses, je les pense, et je les pense de deux façons. Je les pense pour pouvoir persuader, pour être, ça s'appelle des stratégies quoi, de communication, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui est chez le consommateur susceptible d'être modifié pour être un vrai levier d'attachement à une marque, à un produit, à une idée. La publicité, elle est aussi... publicité, c'est ni bon ni mauvais. Si vous avez un dictateur derrière qui veut faire de la publicité, bah, c'est mauvais. Si vous avez un homme de bien, c'est excellent. Mmh. Si vous avez décidé que vous alliez changer les stéréotypes qui vont à l'encontre des femmes par la publicité, c'est formidable. Mmh. Donc, la publicité, c'est comme si on disait la parole, oui, elle est bonne ou mauvaise.
Ce que tu dis, c'est un levier, quoi.
C'est un levier. Donc, et nous, d'ailleurs, on ne va pas défendre des potentats africains. Mmh. Ça ne nous prendrait même pas à l'esprit. Quoi. Mmh. On cherche à ce que les leviers soient corrects, à ce que les gens pour lesquels on communique soient corrects. Mmh. C'est-à-dire les entreprises. Pour moi, l'entreprise, elle est fondamentale. On a besoin d'entreprises. Et pour arriver au succès, elles ont besoin de persuader des gens.
Mais donc, tu n'as jamais vécu ça, justement, dans tes premières agences, tes premières années, ce côté... J'ai pas fumé, tu vois, ça existe, ce côté dans certaines agences. À tort ou à raison, tu dis c'est pas comme ça chez vous, mais on prend les commerciaux pour des ploucs, enfin pour des blaireaux.
Bah, il suffit de. Moi, j'ai.
Je suis pas comme ça. Hein,
moi, mais... Non, mais parce que c'est le terme qui n'est pas le bon, quoi. Mmh. Si, qu'est-ce que c'est commercial d'abord, il faut toujours être respectueux par rapport aux gens, donc même dans sa définition commerciale, il y a des gens qui vendent des fromages. Ça s'appelle un marchand, le boucher c'est un commercial. Voilà, moi j'aime bien mon boucher, quoi. Maintenant il essaie de me vendre de la viande. Et quand je rentre, il me dit pas si tu prenais plutôt pas de viande aujourd'hui, quoi. Non, ouais, il est bizarre, hein, il est trop étrange. Donc il y a déjà un métier commercial qu'il faut respecter. Ce sont des gens qui proposent leurs produits. Celui qui est au marché, il fait une partie commerciale. Après, il se trouve que dans l'agence, dans les agences, dans mon agence, la fonction commerciale, c'est bien sûr, il faut persuader le client de. Nous, on n'a aucun. En fait, on n'a aucune vraie autorité que celle de l'influence. Même avec notre client direct, s'il veut pas, il ne le fait pas. Oui. Donc, on a pour office de le persuader. Mais on a une deuxième partie dans notre métier qui est très fondamentale, c'est la stratégie. Moi, je ne sais pas vendre si je pense que ce n'est pas la bonne stratégie.
Oui.
Je sais vendre ce à quoi je crois. Donc, les stratégies, il faut bien des gens qui les mettent en place. Donc, ces stratégies de communication, c'est ce qui va permettre de briefer des créatifs sur la jeunesse pour Evian, la santé pour Danone. Donc, c'est des grands leviers qui modifient les entreprises. Ça, c'est les strates de communication, c'est passionnant, parce qu'elles modifient l'être humain, les strates de communication. Et elles modifient ça, et elles sont pas faciles à faire, parce que c'est pas... En gros, ça demande une vraie connaissance et compréhension des gens. Parce qu'on peut pas vendre n'importe quoi à n'importe qui. Ça existe pas, ça. Ça serait trop bête et trop facile, et on changerait de métier.
Il semble assez clair, après... 30 ans, un peu plus dans ce métier, que tu as trouvé ta voie et que tu es toujours passionné. Parce que...
Non, mais parce que c'est tellement... D'ailleurs, ça se voit. Quand je vais quelque part, ça passionne les gens.
Oui, oui, oui.
Pourtant, il y a plein de métiers à côté qui sont absolument passionnants. Les médecins, ils sont géniaux. Il y a plein de métiers. Mais l'acte de la persuasion, c'est ce qu'il y a de plus humain. Et c'est probablement la chose la plus... la plus humaine, c'est-à-dire...
Le dialogue, le...
Quand un roman, quelqu'un écrit un roman, il veut qu'il soit lu, enfin c'est rare que le romancier, il se met à faire du commerce, ce brave garçon, et il est content quand ça a lieu. Donc nous, c'est pas ça, nous on travaille sur les systèmes de persuasion. Et dans le système de persuasion, vous pouvez pas persuader les gens de tout ce que vous voulez. Vous voyez, sinon Macron s'en sortirait mieux là. Il y a une panne là.
Pour ceux qui écoutent ce podcast beaucoup plus tard, on est encore embourbé dans la crise des gilets jaunes.
Voilà. Donc donc ça prouve que c'est un peu compliqué de les persuader. Lui pensait les avoir persuadés, et puis ça s'est déréglé.
Oui.
Donc en fait les êtres. Pourquoi ? Parce que les êtres humains, en gros, ils écoutent ce qui les arrange. Donc, il faut vraiment connaître l'état où ils sont, ce qui leur va, ce qui leur va pas. Mais bien sûr, on essaie de leur vendre quelque chose. Mais ça, pour moi, c'est le principe de l'humanité. C'est-à-dire que Vous faites des tomates, vous appliquez, elles sont magnifiques les tomates, vous y avez mis tout votre cœur, bah vous essayez de les vendre.
Oui. Oui.
Hein, c'est bête, hein, mais voilà. Vous avez écrit des livres, ils sont magnifiques, vous essayez de les vendre. Voilà. Après, voilà, faut respecter ça. Alors, il se trouve qu'en agence, du coup, le commercial, c'est pas vraiment du... Il y a des agences qui ont structuré en Angleterre. On a pas fait comme moi, je fais chez BETC. On a créé des postes de planning, qui sont des gens qui font des stratégies. Ensuite, vous avez les créatifs qui sont des gens qui trouvent l'écriture par rapport à ces stratégies, les commerciaux qui vont vendre. Moi, je n'ai pas organisé l'agence comme ça. Je ne l'ai pas organisé comme ça parce que pour moi, celui qui vend le mieux, c'est celui qui a pensé.
Je suis d'accord. Je vois tout à fait ce que tu veux dire.
Et d'ailleurs, un client, moi, je veux rien vendre à un client, je veux le persuader.
C'est d'ailleurs souvent pour ça qu'on envoie un réal ou un acteur sur des plateaux de télé, parce qu'on ne va pas envoyer le producteur qui est derrière.
Même si le producteur, ça aussi, il faut dire la vérité, les producteurs, les grands producteurs, c'est des génies.
Oui, bien sûr.
Parce qu'ils identifient par où ça va se passer, qui est-ce qu'il faut mettre en œuvre. Et alors, moi, j'aime bien aussi, par rapport, par exemple, au système anglais. Ce que j'aime dans le mélange, c'est que si tu crois quelque chose, tu le vends.
Oui.
Et ça, c'est mieux que quelqu'un qui pense, mais qui n'a pas à vendre. Parce que ça s'appelle le non-engagement. Et moi, il y a un mot que j'aime dans la vie, c'est l'engagement. On pense quelque chose, on le fait, on le dit, on le fait, on essaie de persuader les autres.
Je partage totalement ça, Mercedes. La suite, donc, tu te retrouves, comme tu le dis, tu étais tellement responsable que tu es devenu naturellement la boss chez Saatchi.
Bah oui.
Tu te retrouves patronne de Saatchi en France, qui est quand même, donc je le dis, mais alors surtout au milieu des années 90, en tout cas juste avant que tu partes, c'est quand même son apogée presque. Hein, on est quand même sur quelque chose qui est...
Oui, parce que après, c'est compliqué en fait, tous ces réseaux qui s'achètent les uns les autres. Donc, Saatchi a été racheté.
Par Publicis. Oui.
D'abord, c'était compliqué, les frères Saatchi. Il y a eu un début de faillite, de choses compliquées. En fait, mais en tout cas, ça a été racheté. Il y a eu même la scission avec un nouveau Saatchi qui est venu après. Mais en gros, Saatchi, le réseau Saatchi a été racheté. Et c'est compliqué de... Pour qu'un réseau existe, il faut une culture, il faut une âme. Et je pense qu'en France, par exemple, Publicis aimait trop Publicis. Donc, quand vous aimez trop Publicis, ben, vous laissez mourir Saatchi, Léo Burnett. En France, alors que Léo Burnett est une marque exceptionnelle dans d'autres
pays
du monde.
Oui, bien sûr. Et du coup,
et donc moi j'ai eu l'impression qu'on a fait. Moi j'ai pas choisi de quitter parce que alors moi je suis nulle pour quitter quelqu'un et quelque chose. Ils sont venus me chercher. Et mon problème c'est que je voyais une limite. Ça faisait 14 ans que j'étais chez Saatchi finalement.
5 ans que t'étais la patronne.
Ouais, j'étais très fidèle et puis j'étais très heureuse parce que moi. Il suffit qu'on me fasse travailler un truc, j'ai l'impression de construire, ça va quoi.
T'avais assis déjà cette personne, je veux dire Mercedes Serra, c'était déjà.
Oui, j'avais déjà des médias et tout, mais ça s'est passé un peu naturellement parce que en fait, au début, je me suis concentrée sur mon travail.
Tu avais tes 5 enfants, pardon, excuse-moi.
Ah bah non, pas. Non, j'en ai fabriqué. le moment du départ, je crois que j'ai fabriqué les 3 derniers.
Tu as créé BETC et en même temps,
j'étais enceinte. Oui.
Ah, d'accord.
Oui, je crois. Je crois qu'il y a eu. Il y a des gens qui croient que j'étais toujours enceinte parce que après avoir eu des jumeaux, j'ai eu un autre bébé.
Oui.
Et donc ça, personne pouvait l'imaginer. Tout le monde croyait que j'avais des traces des jumeaux et que j'étais un peu rondelette. Mais non, j'avais pas des traces. J'en avais un autre. C'est pas le même concept. Non,
d'accord,
voilà. J'ai fait plein de bébés.
Vers le milieu des années 90, t'étais en pleine phase de création. Quoi.
Voilà, je faisais des bébés.
Et des boîtes.
Enfin, une boîte. Et en fait, moi, ce qui m'a fait bouger, c'est que j'aimais déjà pas très bien tellement la relation que Londres avait avec nous. Je trouvais...
Oui, qui est commune dans les boîtes, hein, le petit côté chien en laisse quand on a une...
Ouais, bah en fait, franchement, regarde ce qui s'est passé pour des groupes comme Omnicom, TB, ils investissent pas énormément dans les marchés français. Les gens doivent leur rendre des comptes de façon permanente.
Ouais, moi, y a plusieurs schémas. Il y a soit les Anglais, une boîte anglaise qui cherche à avoir pignon sur rue sur le continent, soit aussi les Américains, souvent, qui mettent leur pied-à-terre en Europe, en Angleterre.
Mais il y a eu très longtemps, les agences américaines, c'était quelque chose de merveilleux en France, hein, la Young, etc. Je pense que la façon dont ces agences ont été traitées, c'est-à-dire ce qu'on leur demandait de remonter en argent, de ce qu'on leur demandait sans arrêt de prouver et tout, ça rendait quand même le monde un peu compliqué, quoi. Donc, j'ai été marquée par le fait, j'ai vraiment été marquée par le fait que moi, je voulais pas gagner un budget puis le donner à Londres. Je comprenais pas le concept.
Oui, surtout.
Donc, voilà. Ouais. On parle de grandes marques. Je me suis dit, il faut créer une marque française. Il faut que cette marque... De toute façon, la France tient une place énorme dans ma vie.
Le français.
Le français, la migration, la France, le français. Ensuite, je voulais créer une agence française qui démontre au monde entier qu'on pouvait faire de l'international. Car je rappelle que même pour les Français, quand on dit une équipe internationale, en gros, ils veulent dire une équipe anglo-saxonne. Moi, je leur disais, mais pas du tout, les Français peuvent être internationaux. Oui, un Espagnol aussi, d'ailleurs, au demeurant et tout. Et je pensais que c'était mon combat que de démontrer qu'une agence française pouvait avoir une excellence en termes de réflexion et de créativité, et que c'était ça mon enjeu. Et comme à l'époque, Eric Tancong et Rémi Babinet m'ont approché en disant, mais tu es obligatoirement avec nous et tout, et que je n'avais pas peur d'affronter des gens dont on disait qu'ils étaient très bons. J'étais pas du tout pour le pouvoir unique.
D'accord.
J'étais pour le résultat. C'est-à-dire, je pense, et je pense toujours, que plus on met de talent, et mieux on s'en sort.
Alors là, vous décidez de créer BETC.
Ouais.
En fait,
ils avaient commencé tous les deux, et ils avaient créé BTC, et ils m'ont proposé de les rejoindre, et ils ont mis un E. Voilà.
Le BE. Et ils t'ont quand même remonté dans la hiérarchie, c'est sympa.
Ah, bah, sinon, ils ne seraient pas venus.
Ils auraient pu mettre BTCE, quoi.
Ah, non, non.
Ou EBTC, alors.
Bah, non. ah, non, ils ont mis l'ordre alphabétique.
C'est bien. C'est ce que je fais dans les emails quand je dois écrire à des gens importants. Je me dis, on va faire une hiérarchie par ordre alphabétique, c'est plus simple. Pourquoi au sein d'Havas, c'est quoi le deal d'origine? Vous avez des parts du coup?
Le deal, non. Le deal, c'est un deal bête qui nous ressemble d'ailleurs. Non, on nous avait dit qu'il fallait créer, qu'il fallait sauver Havas. En fait, à l'époque, c'était Eurocom qui rejoignait HDM. C'était un bordel sans nom. Et donc, ils avaient créé des pétales. Nous, on était un des quatre pétales et ils nous avaient dit que pour nous engager, en tout cas, il nous avait dit que c'était très important qu'on allait sauver HTM, Bélier, Euro-RSG, tout ça qui s'était mis ensemble. C'était un grand bordel. Et on les a pris à la lettre. Et donc, on a créé un pôle. Et ce pôle a grossi, est devenu important. Tout le monde est tombé autour.
C'est une entreprise quasiment. Enfin, ouais, à l'intérieur de. Ouais, d'accord. Ouais, vous étiez tous salariés.
Oui, on est toujours salariés.
Et vous avez récupéré des actions.
Tout le monde croit
que
ça nous appartient, mais pas du tout.
D'accord.
Ça ne nous appartient pas.
On vous a quand même filé des dividendes avec quelques actions au fur et à mesure.
Non, on nous a filé
temps.
De l'argent, c'est sûr. Mais ça ne nous appartient pas. Tout le monde croit que ça nous appartient. Ça ne nous appartient pas. Ça appartient à Bolloré à 100%.
D'accord. Bon, ils trouvent des leviers de fidélisation qui sont les siens. Et...
Non, mais maintenant, nous, on n'était pas des start-upers. On ne voulait pas devenir riches en créant notre start-up. Et... On voulait sauver la pub française.
Et alors,
poétique.
J'adorerais avoir quelques réponses à des questions. On va accélérer parce qu'on a des objectifs, des impératifs de temps. Mais... Déjà, je voudrais je suis pas du genre forcément à brosser dans le sens du poil, mais je voudrais te dire que quand même, BETC, moi, j'en garde un. Donc, j'ai commencé comme, comme chef de publicité, mais également chez Métro, le quotidien gratuit, avec quelqu'un que tu dois connaître, qui s'appelle Valérie Descamps, qui est une femme extraordinaire.
Qui est formidable. Je travaille beaucoup avec elle.
Tu fais bien chez Public Transport, avec ce Métrobus.
Formidable.
Et en fait, j'avais un moment en charge BETC, j'allais chez toi, donc rue du Faubourg Saint-Antoine. Oui. Et ce bureau, alors, était...
Saint-Martin,
rue du Faubourg Saint-Martin, qui est désormais Le Bon Coin, d'ailleurs, où je suis allé une ou deux fois depuis. Et vous avez toujours été quand même très avant-gardiste, parce que ce bureau, c'était quand même... Enfin, je pense que pendant des années, j'en ai parlé, en disant, mais faut le voir, ce truc, quoi. Ça donnait envie, vraiment. Je veux dire, tu rentres là-dedans. Et maintenant, c'est le cas dans beaucoup de boîtes. Il y a Google, il y a Facebook, il y a plein de gens qui font ça. Mais à l'époque,
maintenant,
il n'y
en avait pas. On a Pantin qui est encore...
Que je n'ai pas encore visité.
Un stade au-dessus.
Tu m'inviteras.
C'est magnifique.
Mais je veux dire, en tout cas, il y avait ce truc où quand tu rentrais là-dedans... Oui, mais en fait, ce que je veux dire,
Parce qu'avant, il n'y en avait qu'un seul.
Avant, il n'y en avait qu'un seul.
Mais même maintenant, il n'y en a qu'un seul. Parce que nous, on n'est pas du tout Google. Mmh. C'est pas du tout... c'est une agence très exigeante. C'est pas une agence... On donne pas des bonbons aux gens. On n'est pas, c'est pas démagogie.
Ça veut dire quoi, très exigeante?
Exigeante, ça veut dire que ce qui compte le plus dans cette agence, c'est ce qu'on sort. Et ce qu'on sort, faut que ce soit à la hauteur du respect qu'on a pour les gens. C'est-à-dire que, en gros, tu vends une campagne, tu fais de l'argent, mais ta campagne, tu as honte. C'est pas BETC.
Ouais.
Ça nous arrive, de pas être content. Mais on est triste.
Oui, mais quand tu vois ces bureaux et quand tu vois toutes ces choses-là, tu te dis qu'aussi tu rends à tes collaborateurs. Il y a quand même un côté...
Oui, mais c'est parce qu'on a compliqué la notion de travail aujourd'hui, les Français. C'est un vaste sujet. Mais en gros, pour nous, c'était important de travailler... C'est pas une agence à structure hiérarchique. C'est-à-dire que c'est une agence avec de l'autorité. Mais c'est pas une agence où l'autorité est donnée. Donc, des gens qui sont habitués à avoir des signes d'autorité, il faut savoir que moi, j'ai pas de bureau, que je travaille à la cantine. Et ça fait des années. De toute façon, j'avais pas de bureau dans le 10e, je me suis habituée, je trimballe une valise. J'ai pas de bureau.
Donc, Mercedes avait devant moi une valise à roulettes avec plein de choses dedans.
C'est très pratique, ça s'appelle un bureau. Bon. On a joué le jeu à l'extrême de choses qui nous semblaient importantes. C'était d'éviter des signes d'autorité qui ne sont pas ceux que nous souhaitons. Et du coup, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la qualité du travail. C'est ça qu'on admire. La deuxième chose qui compte, c'est la capacité de supporter des talents multiples. Et c'est jamais évident. C'est pour ça que les gens, souvent, s'accompagnent de gens un peu moyens, parce que c'est plus pratique. Parce que les gens qui ont du talent, ils sont fatigants. Donc, nous, on croit au talent, fortement. On croit que plus on a de talent, plus on est capable de sortir des choses extraordinaires par
plus
rapport
à... Plus se tire vers le haut.
Et voilà. Et donc, c'est fatigant. Donc, c'est une agence fatigante. C'est une agence exigeante. Après, c'est une agence valorisante, puisque... Elle n'est pas dans la hiérarchie un peu bête. C'est pas l'obéissance ce qui est demandé aux gens. Elle est soutenue quand c'est une agence qui soutient les gens lorsque face à un client ils ont des points de vue différents.
Et il y a une forme d'excellence qu'on perçoit encore beaucoup. Comment tu fais donc BETC a plus de 20 ans. Comment tu fais pour avoir Enfin, il y a des moments où vous étiez moins au top, j'imagine, mais comment vous avez été encore primé ces dernières années? Comment tu fais?
Alors on est au top depuis le premier jour, c'est extraordinaire. Non, mais j'ai vérifié parce que nous avons travaillé avec Harvard sur le concept des entreprises miracles. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise miracle pour Harvard? C'est une entreprise qui, pendant 10 années, suivie. Développe fortement son chiffre d'affaires. Et deux, pas son profit, son chiffre d'affaires. Donc, ça dit l'attractivité, en gros. C'est-à-dire, ça veut dire... Et deux, c'est une entreprise qui a fait le choix du chemin de la qualité et pas du bas prix. Donc, en fait, dans notre histoire, il n'y a pas une année où on ne se soit pas développé. Et ces dernières années, alors qu'on est les plus gros, là, On continue sur des rythmes importants. Cette année, c'était 12%. Donc, c'est des rythmes d'attractivité importants. Et je pense qu'on en a encore. Beaucoup de choses sont possibles. Après, c'est dur. C'est dur parce que faut. Voilà, nous, on déteste. On avait des idées très simples. Hein. Mmh. On pensait qu'il fallait travailler. On pense que le métier est difficile. C'est pour ça que ça exige l'accumulation de talents. On pense que le fond est important. On pense que le temps est clé. C'est-à-dire que si c'est pour rentrer et sortir chez les clients, ça, c'est pas intéressant. Donc, nous, quand nous gagnons un client, nous pensons que nous le gagnons pour la vie. Mais c'est fatigant parce que pour la vie, il faut le mériter. Souvent, il nous met en compète. Il nous dit qu'on est moins bien. Donc, voilà, faut s'accrocher. Et on a toujours.
Ça veut pas dire qu'il faut, que tu peux pantoufler derrière.
Non. Ça veut dire que il faut toujours privilégier ce que nous avons par rapport à ce que nous n'avons pas. C'est-à-dire qu'on construit du fond, on construit des fondamentaux. Et ça, c'est complètement clé. Et puis après, il y a le jugement sur la qualité du travail et voilà. Et ça, c'est la chose la plus importante, quoi. C'est pas le profit pour nous la chose la plus importante.
J'ai 4-5 questions avant qu'on arrête. Du coup, je me dépêche. Là, exactement.
Là, j'ai rendez-vous.
Dans 2 minutes.
Je regarde.
Je t'en prie. Tu as changé d'actionnaire, tu parlais de Vincent Bolloré tout à l'heure et du groupe, mais depuis 20 ans, tu as changé d'actionnaire à plusieurs reprises. Ça change quoi? Parce qu'en plus, tu vois, tu es remonté aussi dans le groupe Havas. Donc, comment on vit tout ça, en fait, quand c'est sa boîte?
Enfin, quand c'est sa boîte, c'est leur boîte, oui, c'est ça qui est embêtant, si j'ose dire. Eh bien, on vit ça. On a réussi, je pense, parce qu'on avait, ça marchait bien, quoi. Donc, je pense qu'on a réussi parce qu'on était très clair entre nous, parce qu'on ne voulait pas discuter des choses fondamentales qui faisaient la différence dans notre métier, mais aussi parce qu'on avait de très très bons résultats à se préserver. C'est ça notre histoire. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, Yannick Bolloré considère que c'est une de ses pépites. Je ne sais pas s'il lui donne la place que moi je lui donnerais si j'étais lui, mais en tout cas, je sais qu'il considère que c'est une de ses pépites, et Vincent aussi. À mon avis, on pourrait donner plus de place à BETC.
Le message est passé, s'ils écoutent une heure de podcast,
ils savent. Ils le savent. Je dis tout le temps, je dis toujours la même chose à tout le monde, ça simplifie ma vie.
Pour beaucoup d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs, de moins jeunes, mais néo-entrepreneurs qui nous écoutent, si tu as 2-3 conseils sur la création d'une marque, d'une entreprise, mais de ce qui va autour, est-ce qu'il y a des bases que tu peux me donner très rapidement?
Oui, et puis alors, mon fils crée une entreprise, là, et il est très indépendant, il ne veut pas de...
Un de tes derniers de 20 ans,
mon
du coup?
Mon premier.
Ton premier, donc qui doit avoir...
Qui a 30 ans.
30 ans, ok.
Donc, il a décidé il est dans la transformation digitale et il a décidé, dans une boîte de conseil, il a décidé que ça allait être sa propre boîte de conseil.
D'accord.
Et il m'a envoyé il en fait qu'à sa tête, c'est formidable. Et donc, il m'a envoyé ce qu'il avait écrit, lui. Et je me suis dit, il est trop bien, mon fils. Trop bien. Parce que ce qu'il avait écrit, c'est ce que je pense le plus fortement.
Citons-là sa boîte de conseil, oui. Tant qu'à faire. Hein. Ah, je ne sais pas si tu as le droit, d'ailleurs. Mais...
Non, mais en tout cas, ça va être une petite boîte de conseil là, qui va... Je t'en parlerai. et alors, il a écrit des choses très précises. Il a indiqué que il était fournisseur, donc son job, c'était de dire la vérité, être authentique, qu'il allait avoir des consultants, qu'il fallait que ses consultants soient heureux, et que ça passait par l'authenticité, la capacité de dire ce à quoi on croit, etc. Moi, je pense que le plus important pour les gens quand ils créent quelque chose, c'est savoir ce à quoi ils tiennent, et pas lâcher là-dessus. Mon fils, il tient à des valeurs. Sa boîte, elle s'appelle Meji, M-E-J-I, et elle raconte, elle est toute récente, ils sont tout petits, ils sont 2 associés, mais je suis sûre que son futur est grand, parce que sa détermination et sa clarté, il faut savoir ce qui rend heureux chacun. Voilà.
Donc un côté très gut, enfin très dans ce qui se passe chez toi, dans le conseil que tu donnes, c'est instinctif.
Finalement, ce qu'on pensait au début, on l'a pas tellement remis en cause. On a continué, on a eu des hauts, des bas, des moments durs, des moments. Mais il faut avoir un point de vue sur le job qu'on fait et se tenir à ce point de vue. Ça ne veut pas dire ne pas évoluer, mais est-ce qu'on est assez ferme, on pense quelque chose, etc. Après, moi j'adore les startups, mais franchement, moi j'adore les sujets de fond.
Je comprends.
Donc il y a des startups où ils font des trucs pour gagner de l'argent. Entre guillemets, ça ne m'intéresse pas.
Je comprends.
Je veux dire, ils veulent devenir riches. Moi, pour moi, ça ne pouvait pas remplir ma vie, devenir riche. Si je n'avais pas trouvé la publicité que je trouvais passionnante, je ne travaillerais pas dans la publicité pour devenir riche. Quoi. Voilà. Donc, il y a des trucs où vraiment tu sens que la start-up, c'est surtout une capacité, le sentiment qu'on va devenir riche très fort, très vite. Et ça, ce n'est pas passionnant.
Deux questions. Comment on crée BETC avec trois enfants, très bas, cinq enfants? C'est quoi ton secret là-dessus?
J'en ai pas.
Tu les as vus?
D'abord, les femmes, parce que ça, c'est un vrai sujet. On pourrait refaire une émission sur les femmes.
Avec plaisir.
Les femmes, c'est très lourd pour une femme. Moi, je pense que j'aurais été un homme, ma carrière serait plus exceptionnelle. Bon, après, je suis pas sûre que je m'en fiche pas un peu, hein, parce que je préfère avoir eu mes enfants. Mais parce que les femmes, elles font tout encore à la maison, à l'entreprise familiale, etc.
Alors que tu dis ça et que tu as un mari qui est resté longtemps à la maison.
Ouais, hein, qui est resté longtemps à la maison, mais c'est pas une femme.
Ouais.
Il y a rien à faire. Il me laisse faire sur beaucoup de choses.
Cette fameuse charge
mentale.
Non,
ça m'a aidé dans la mesure où, par exemple, j'avais moins d'inquiétude sur le temps. Pour les enfants, mais ça m'a pas aidé dans la charge mentale que j'avais tout le temps. Et d'ailleurs, quand j'ai fait mes enfants, je m'en rendais pas compte, mais je trouve ça fatigant.
Mais t'as réussi, tu rentrais le soir, comment tu...
Non, le soir, c'était quasiment... non, le soir, je rentrais pas pour faire les devoirs.
Le week-end, quoi.
Mais le week-end, j'étais là.
Okay.
Après, sûrement, il y a d'autres façons de... Je pense que j'étais différente d'un homme parce que je faisais les deux, quoi. C'est-à-dire que après, ça voulait dire que pendant les vacances, je m'occupais des enfants ou je m'occupais d'organiser comment ça allait être. Voilà. Donc j'ai eu peu de temps libre. Voilà.
Un bouquin que tu aurais à me recommander, que ce soit pour les gens qui veulent entreprendre ou même un bouquin mais dans l'absolu, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ta vie peut-être ou des...
Non, il y a des choses qui ont changé, enfin il y a des bouquins que j'ai adoré. Moi ce qui m'a aidé le plus dans la publicité, c'était Proust. C'est simple, on lit Proust et on a plein d'indications sur ce que font les gens réellement profondément.
On commence par quoi?
Ah, on commence par le début, la recherche. Mais ça va très vite. En fait, il y a une habitude à prendre à la rythmique de Proust. Mais après, c'est très rigolo. Les gens ne s'en rendent pas compte. Ils pensent que... Non, c'est très drôle. Parce que c'est une analyse super sophistiquée et psychologique de comment réagissent les gens. Comment ils sont compliqués. Comment c'est tellement sophistiqué un être humain. C'est ça que ça raconte.
Si tu avais la chance ou l'opportunité de croiser Mercedes au moment où elle sort d'HEC et que tu pouvais lui glisser un petit mot, qu'est-ce que tu lui dirais?
Oh, je lui dirais pas grand-chose parce que je trouve que c'est très dur de modifier les gens. Moi, j'ai une qualité, un défaut qui est... je pense que je suis généreux, c'est que j'ai pas le sens de l'économie. Mais aucun. Donc, j'ai fait cinq enfants. Si on me dit qu'il faut que j'intervienne à tel endroit pour aider les femmes, j'y vais. C'est effrayant d'être mon assistante, quoi. Voilà.
On l'a pas dit, hein, t'es très impliqué dans la promotion de
la musée
femme,
de l'immigration.
Dans le musée de
l'immigration. Mais énormément.
Dans l'éducation aussi, dans des
masters.
L'éducation,
dans plein de choses. Ouais. Eh bien, ça aurait été bien que je sois plus calme, quoi. Que je sois un peu moins généreuse sur ça.
Pour avoir du temps pour toi, peut-être.
Pour tes enfants. Voilà. où je n'ose pas dire... les enfants, c'est beaucoup, 5. Voilà.
C'est beaucoup, 5. Et la toute dernière, vraiment, si jamais tu as vu... Ce podcast s'appelle Génération Do It Yourself. Je cherche à trouver des gens qui se sont lancés, qui ont cru en eux, qui ont vraiment été... Je pense que toi, tu en es un bel exemple hein, depuis le début. Si tu avais quelqu'un comme ça à me recommander, que je pourrais contacter après...
Mounir.
Mounir Majoubi.
Bah oui,
qui est passé chez toi.
Il croit en lui, hein, y a pas de problème. Hein.
D'accord.
Faut aller le voir, parce qu'il
je le connais un peu, mais tu
faudras que t'insistes.
Ok, on va
ou bien je vais insister, mais il a une foi, il a une capacité, il était très très fort en newbies parce qu'il a été très fort pour valoriser l'ensemble de l'équipe et faire que les choses existent et aient lieu. C'est étonnant comme il y a des gens qui font que les choses ont lieu.
Oui, oui.
Voilà. Et make ça, things c'est happen, incroyable.
Pour finir sur un anglicisme.
Et les choses ont
lieu. Merci, mais ça,
voilà, merci infiniment. C'était cool.
C'était très cool. À tous ceux qui nous écoutent, qui sont nouveaux, par exemple, qui sont encore là, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. C'est facile, c'est gratuit. Et de le noter 5 étoiles sur 5 sur iTunes et à droite à gauche et d'écouter les autres épisodes parce qu'il y a plein de gens très bien. Merci infiniment, Mercedes. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici et bonne journée.
C'était un plaisir.
Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à deux personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@causavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.